France Inter.
It's morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour au contre-sommet de l'IA ce soir.
This technology and society will co-evolve. People will use it in different ways, different reasons.
Le monsieur qui parle s'appelle Sam Altman, c'est le patron d'OpenAI, et il dit ceci: notre société technologique va continuer d'évoluer, les gens vont utiliser l'IA pour différentes raisons, on va découvrir que des choses qui nous semblent effrayantes en fait ne le sont pas, et que des choses qui nous rendraient très inquiets s'avèrent ne pas être des problèmes. Bonsoir Eric Sadin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, vous êtes philosophe, essayiste, vous êtes spécialiste des technologies du numérique. Mavic Spectral, pensez l'ère du métaverse et des IA génératives chez Grasset, c'est votre dernier ouvrage. On a mis cet extrait en ouverture de notre conversation. Je me suis dit que ça vous mettrait en condition, Eric Sadin. Vous êtes...
J'ai l'habitude.
Oui, c'est vous qui organisez un contre-sommet de l'intelligence artificielle. Ce sera lundi prochain, pendant que lundi, effectivement, et mardi aussi, d'ailleurs, se tient un très gros sommet de l'IA à Paris avec de nombreux chefs d'État. Et en toute transparence, nous y serons. Nous, lundi, nous faisons une émission spéciale au sommet de l'IA. Un contre-sommet, Monsieur Sadin, est-ce que c'est une autre voie avec un X ou peut-être avec un E aussi, d'ailleurs, à côté des discours au fond qui nous promettent monts et merveilles? Et comment on fait pour ne pas se faire accuser de marcher à reculons, pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain? Comment on fait?
Alors, vous avez parlé du sommet de Paris, parce que mon initiative et notre initiative vient du sommet de Paris.
Absolument.
Le titre est, vous l'avez relevé, le sommet pour l'action sur l'IA. C'est-à-dire, le ton est donné. Hein, ça sonne comme un engagement pour engager un grand bond en avant vers l'automatisation sans cesse croissante des affaires du monde. Ça s'annonce comme un programme imposé, hein, un sommet pour l'action. Mm-hmm. Et comme vous l'avez dit, il va y avoir une centaine de chefs d'État qui vont rivaliser d'annonces, comme on l'entend depuis une dizaine d'années, d'investissements visant à faire de chacun de leurs pays des champions de l'IA, selon la fameuse expression consacrée. Et il va y avoir des entrepreneurs et des ingénieurs de la tech qui, comme d'habitude, Madame Sintès, vont nous chanter les merveilleux lendemains qui viennent et toujours au futur. Mm-hmm. Parce que je fréquente parfois des messes de la tech et je remarque que toujours c'est énoncé au futur. C'est pas engageant, vous savez, de parler au futur. Et j'ai relevé aussi que quand on vous parle de futur, on a toujours ou presque toujours quelque chose à vous vendre. Mm-hmm. Donc, ce sommet, cette manifestation, va être un condensé de ce qu'on entend depuis des années, de ce que je ne cesse d'analyser depuis des années, c'est-à-dire des discours qui vont nous dire que l'intelligence artificielle représente l'horizon incontournable et lumineux de notre temps, mais il ne faut pas s'inquiéter.
On va vous faire ce que dit Sam Altman. N'ayez pas peur. Hein,
voilà,
c'est ça qui vous
en
dit.
Cours de chemin, ne nous devons pas nous inquiéter. L'IA, la régulation va nous prémunir des pires dérives, c'est-à-dire ce discours qui va de l'avant et qui ménage sa monture, si j'ose dire. C'est ce que j'appelle le fondamentalisme de l'IA. Et pour terminer sur ce point-là, ce sommet de Paris, il s'annonce comme une gigantesque, à mon sens, messe propagandiste. Et ce que je regrette, le drame, et on va y venir dans quelques instants sur le sommet, le drame, c'est que ne vont être envisagées que des questions économiques dans le déni de l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel? Ce sont les conséquences sociales, culturelle, civilisationnelle, entraînée par les développements de l'intelligence artificielle.
On va bien sûr y venir, Eric Sadin. Pardon, je voudrais reposer ma question. Je voudrais savoir comment on fait pour ne pas passer pour quelqu'un qui avance à reculons et pas se faire accuser de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que vous aussi, vous dites qu'il se passe évidemment des avancées technologiques. Comment on fait pour séparer le bon grain de l'ivraie? Est-ce qu'on peut? Ou est-ce que, à votre sens, c'est déjà trop tard?
Alors, vous savez, cette critique, il est temps de l'inverser. Hein, parce que c'est ce discours qui est majoritaire, le discours qui va être tenu durant le sommet de Paris. Et en démocratie, il n'est pas normal qu'il s'impose d'une façon unilatérale et qu'il occupe tout le terrain. Parce que, quand on parle d'IA, si vous voulez bien, il faut qu'on parle en quelques secondes. À quoi a-t-on affaire? Quand on parle d'IA, et je vais venir sur le fait de pourquoi on monte ce contre-sommet. Parce que quand on parle d'IA, c'est très souvent flottant. Il y a beaucoup de discours un peu vaseux et pas très clairs relativement à un des phénomènes les plus déterminants de l'histoire. Il faut saisir, et ça c'est très important ce que je vais vous dire là, qu'il y a trois ressorts dans l'IA. Il y en a un qui ne pose a priori pas de problème, c'est-à-dire que c'est des systèmes d'analyse de quantité de données et qui qui donne des résultats élaborés, par exemple dans l'industrie aéronautique, qui permet d'affiner l'aérodynamisme, ou dans l'industrie pharmaceutique, qui permet de développer des
donc
molécules.
Donc ça, on garde. Pardon, mais j'aimerais tellement pouvoir revenir à ma question.
Mais ça, c'est très important.
Ça, on garde. Donc, c'est le sens de ma question.
Oui.
Est-ce qu'on peut garder des choses en disant « ça, c'est bien » Est-ce qu'on peut jeter des choses en disant « là, ça ne va pas aller du tout, on ne sait pas où on met les pieds » Et comment on fait pour faire cette frontière
alors,
entre les deux?
Alors, j'allais y venir, je ne dis pas « ça, c'est bien », je dis « c'est acceptable ». Et les deuxièmes ressorts, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une puissance d'expertise et de recommandation, hein, d'expertise de plus en plus en temps réel de différents champs de la vie du réel. Et qu'est-ce que ça induit, ça? Ça induit que ça analyse et ça envoie des signaux en retour. Donc c'est une puissance ordonnatrice. Ça a lieu dans la vie de chacun d'entre nous, au quotidien, des systèmes qui interprètent nos comportements et qui nous disent achetez tel produit, allez dans tel endroit. Cette puissance ordonnatrice, donc qui engage des questions juridico-politiques extrêmement importantes. Et le deuxième ressort de ça, c'est que ça, notamment dans le monde du travail, il y a des signaux qui encadrent la vie humaine. Et depuis, comme si ça ne suffisait pas, depuis fin 2022, est apparu ce que j'appelle le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle.
C'est-à-dire
que des systèmes, notamment développés par Sam Altman et OpenAI, on charge désormais des systèmes d'assurer, entendez la gravité de ce que je vais dire, d'assurer des tâches qui jusque-là mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives. Comment ne pas voir que c'est ce qui nous caractérise en propre qui est menacé, et notamment toutes les professions à haute compétence cognitive. Alors, pour terminer sur ce point-là, au sommet de Paris, le point capital, le premier des points qui devraient tous nous interroger et nous mobiliser, c'est celui de l'éducation, Madame Saint-Est. Il n'en sera même pas question. Alors, face à ce spectacle, moi qui suis parisien, moi qui suis français, pays d'Émile Zola et de Beaumarchais, je me suis dit pas possible de rester les mains croisées au vu de toutes les recherches que
j'ai
menées.
Mais je vous entends, et c'est pour ça que vous organisez ce contre-sommet, pardon, mais je vais y aller une troisième fois. Comment on fait désormais? Vous êtes le premier à dire, et je vous ai lu, évidemment, Éric Sadin, vous dites que la boîte de Pandore, elle est ouverte. Et j'entends ce que vous dites, la boîte de Pandore, elle est ouverte. Est-ce que vous vous dites, sur certains aspects, pour protéger la propriété intellectuelle, pour protéger un certain nombre de choses, oui, nous pouvons encore faire marche arrière.
Mais c'est
est-ce
pas...
qu'il faut dire ça ou
ce
pas
n'est absolument pas une question de marche arrière qui est trop connotée.
Donc il faut mettre un panneau stop, enfin,
vous
voulez.
Je vais vous expliquer en quelques mots. En quelques mots, donc, je me suis dit, il faut organiser quelque chose. Quand j'ai annoncé à Inter, à la matinale, en décembre, quand je suis rentré chez moi, donc dans la matinée, j'ai reçu une avalanche de messages et de propositions, soit d'intervenir, soit d'être présent. Je me suis dit, tiens, ça témoigne d'une furieuse demande, peut-être trop longtemps.
Ça témoigne d'un constat que tout le monde fait sur, effectivement, un certain nombre d'emplois qui sont menacés. On pense aux traducteurs, on pense à tout ça.
Absolument.
Ça témoigne aussi d'une crainte sur, au fond, un appareil qui va tous nous mettre dans une espèce d'égalité bizarre, puisqu'on la machine aura été alimentée par les mêmes choses, donc on aura les mêmes réponses à tout. Ça témoigne de crainte autour de l'environnement. Ça témoigne autour de craintes de cet ordre-là que chacun entend et que l'on entend aussi, effectivement.
Alors, qu'est-ce qu'on en fait?
J'y retourne.
Qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien la question. Dès que j'ai annoncé ça, le SNJ, Éric Barbier, membre référent de
le Syndicat national des journalistes,
auprès du SNJ,
et la proposé... raison, ne laissons pas l'IA faire des journaux. Mais
voilà,
comment
de s'associer,
on fait,
le cadre de la Concorde a proposé de n'ouvrir les portes. Nous plaçons ce sommet, et là je vous réponds, vous réponds directement, nous plaçons ce sommet sous une double philosophie. Et ça c'est extrêmement important, il ne s'agit pas de faire machine en arrière, ce n'est pas du tout comme ça que j'envisage les choses. Le premier principe, c'est celui du témoignage, c'est-à-dire très loin des discours hors sol, comme je disais, toujours énoncé au futur, sont invités des personnes au cours de cette journée au Théâtre de la Concorde à 300 mètres du Grand Palais, c'est une ironie assez drôle, sont invités des personnes issues de différentes corporations qui vont témoigner, il serait temps, des conséquences concrètes entraînées du fait de l'implantation de systèmes d'intelligence artificielle dans les différents secteurs de d'activités. Qu'on nous raconte dans l'école publique comment ça se passe, l'usage de ChatGPT, des élèves qui utilisent cela, qui rendent des copies, ne savent même pas ce qu'ils rendent, des professeurs qui se disent on ne sait même plus quelle est notre mission, on ne sait même plus quel est le sens de notre travail. Qu'on nous raconte comment l'immense impact climatique entraîné et par la conception et par l'usage des systèmes d'intelligence artificielle, qu'on nous raconte dans le monde du travail les conséquences concrètes entraînées et qu'on nous raconte aussi dans le monde de la culture, parce que vous avez parlé des traducteurs, il va y avoir des traducteurs qui vont nous raconter comment des grands éditeurs de la place de Paris leur donnent des textes totalement illisibles, sans queue ni tête, qui les appellent qui les obligent à tout reprendre tout en étant moins rémunérés, en étant bientôt voués à disparaître. Est-ce qu'on les entend, ces personnes? Vous voyez ce qu'on va avoir à faire au Théâtre de la Concorde. Je suis désolé d'annoncer, j'ai le regret d'annoncer que c'est quasi complet. On va avoir affaire à l'envers du décor, qui est bien trop longtemps resté à l'abri de nos regards. Parce que je crois que l'heure, Madame Synthèse, est venue d'arrêter naïvement, dans une forme d'infantilisation généralisée, les ingénieurs et les entrepreneurs de la tech pour savoir de quoi il en ressort de
l'IA. Est-ce que ça
des
veut
personnes
dire...
qui sont à la fois juges mais et alors, parties. Il va y avoir mais ça, ça n'étonne plus personne.
Vous allez témoigner, effectivement, et faire témoigner, on entendra ces choses-là. Moi, je voudrais savoir à un moment jusqu'à quel point vous pouvez, vous avez les moyens, la faculté d'aller les confronter aux gens qui sont à côté de vous, qui sont au Grand Palais.
Alors,
à un moment, vous vous parlez ou pas du tout?
Je ne suis pas sûr qu'on se parle, je ne suis pas sûr que...
Comme vous connaissez Sam Altman.
J'ai parlé de deux principes. Le deuxième, c'est la mobilisation. Oui. C'est-à-dire que vont être narrées aussi les formes de mobilisation qui sont déjà mises en marche et également seront imaginées collectivement au cours de ce jour-là des formes de mobilisation qui pourraient se mettre en œuvre. Parce que voyez-vous
alors
ce qui s'est passé...
Pardon, je voudrais des solutions.
Oui.
Comme
oui.
quoi?
Eh bien, regarde, je vous donne un exemple qui aurait dû tous nous inspirer. Tous. Mais la société n'a pas cette conscience. Alors, les scénaristes d'Hollywood à partir de 2023, qu'ont-ils fait? Ils ont vu le mauvais vent venir. Ils l'ont vu. Et ils se sont mobilisés pour défendre leur profession, pour ne pas que ça soit des systèmes d'IA générative qui les remplacent. Et ils se sont mis en grève durant 6 mois, dans un pays où l'endettement est extrêmement important, ce sont des héros de notre temps.
Vous avez prononcé
voyez-vous cette forme de mobilisation, d'autres corporations auraient dû s'engager à les mener. Oui. Et maintenant, ce temps, je crois, est venu pour que la mobilisation sans attendre du régulateur, qui en général a les yeux pleins d'étoiles pour la dignité de l'innovation numérique, pour que les forces de la société, au nom de principes fondamentaux, disent cela, on y est peut-être prêt, cela, on le refuse catégoriquement.
Vous avez dit la société n'a pas pris cette conscience. Effectivement, il y a eu la grève des scénaristes. Et autres n'a pas pris cette conscience. Mais au fond, je vous entends, Éric Sadin, là, depuis 10 minutes. On a l'impression que ce qui vous chagrine réellement, c'est que les gens se sont jetés comme des morts de faim sur ces outils. Voilà.
Vous avez lu dans mes pensées.
Mais du coup, vous êtes plus. C'est pas la technologie qui vous fait peur, en fait, c'est nous. C'est nous, c'est l'humain.
C'est le renoncement à nos principes les plus fondamentaux et à nos facultés. Vous savez. C'est une première, ce qu'on organise. C'est-à-dire, c'est une première dans le monde. Moi, je reçois des messages de Mexico, de Tokyo, de Berlin, d'Italie. C'est une première parce que on change le prisme de perception. C'est-à-dire, on n'interroge plus ceux qui font, ceux qui sont jugés partis, on interroge ceux qui vivent cela, et ceux qui entendent faire valoir leur position. Parce que, voyez-vous, ce qu'on organise là, ça répond à une initiative profondément démocratique, dans le sens où la démocratie, c'est l'expression de la pluralité, de la contradiction et la possibilité de nouer des accords. Or, le sommet de Paris s'impose d'une façon unilatérale. Il est très bon qu'il y ait une initiative, non pas contre, mais une initiative qui fasse valoir d'autres visions du monde. Parce qu'en réalité, au-delà de l'IA, ce sont des visions du monde qui sont placées dans des formes d'antagonisme.
D'autres visions du monde, Éric Sadin. On est content de vous avoir entendu et d'avoir donné de la voix aussi.
Merci
à ce
vous.
Contre-sommet, puisqu'on ira nous aussi de l'autre côté, autant que les choses soient dites. Je le redis, même si vous nous l'avez dit, il y avait très peu de place encore, mais enfin, ça se passe à la bourse, au Théâtre de la Concorde.
Au Théâtre de la Concorde, nouveau lieu dévolu au débat et aux échanges d'idées citoyens de la ville de Paris.
Absolument, avec vous, Éric Sadin, bien sûr. Merci beaucoup
Merci
de votre passage
vous.
Chez nous. La suite ce soir, ça se passe en Turquie, ça se passe à Antioche en particulier, où Marie-Pierre Véraud est revenue 2 ans après le tremblement de terre qui avait dévasté une très grosse partie de la ville, tué des milliers de personnes aussi. Pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche sous les radars.
Au Japon, 1,20 m de neige en quelques heures seulement.
Et 18h50, Franck Madvon, Le Monde à 18h50. Allez-y, Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Et si un nouvel accord sur le nucléaire iranien, contre toute attente, était possible?
La tech la première, c'est vous Stéphane Jourdain, vous êtes le mal.
Oui, alors là j'ai un peu peur de me faire engueuler, mais à 3 jours du sommet IA, on a une invitée exceptionnelle, Joëlle Barral, directrice scientifique de Google DeepMind. Ce qu'elle attend du sommet, et plus largement, dans une société blindée d'IA, est-ce que ça a encore du sens d'apprendre une langue étrangère et quelle place pour l'ennui?
Voilà, mais on pose des vraies questions, Monsieur Sabin, ne vous inquiétez de rien. La suite, c'est le tour de la planète qui continue, en passant par Londres où elle est née, par Paris où elle vit. Voici Flora Hibbert, Code, c'est le titre, et c'est dans la playlist d'Inter.
Wove a code to tell you how deep the night is, but life is a mystery. No key to crack the mystery. When I woke up, you were gone. I lay my head back down, the ghost ranch glowing in my inner eye. What do I do about my destiny now? Faced with the bowed-headed beauty, only I receive it how? Went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line. Now I'm stretched out beneath the dome and dreaming. So dissolves in geometric blue. Goodbye, goodbye to everyone that's leaving. I understand it, but I cannot explain. What do I do about my destiny now? Faced with the bowed-headed beauty, only I receive it how? Went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line. Now I'm stretched out beneath the dome and dreaming. Now I'm stretched out beneath the dome and dreaming. Now I am stretched out beneath the dome and dreaming. I understand it, but I cannot explain. What do I do about my destiny now? Faced with the bowed-headed beauty, only I receive it how?
Le reportage d'un jour dans le monde est en Turquie ce soir, à Antakya. Quand je vous aurais dit que c'est l'antique Antioche, vous situerez mieux sur la carte. 2 ans après le terrible séisme qui a secoué la région, qui a fait plus de 54 000 victimes et des disparus au nombre toujours incalculable. Vous vous souvenez qu'on avait parlé tout de suite des constructions à l'emporte-pièce, des normes sismiques non respectées. 2 ans plus tard, le traumatisme, bien sûr, est toujours là. Et la justice toujours aussi lente, alors que des familles attaquent des producteurs, des promoteurs, des architectes, des décideurs locaux. Le reste, c'est Marie-Pierre Véraud qui raconte.
Plus de 220 000 personnes sont toujours hébergées dans des containers à Antakya. Même si pelleteuses et grues sont à l'œuvre, même si des immeubles de béton sans âme poussent dans le paysage, la reconstruction patine. Eddie B est venu chercher l'aide de la Maison du Peuple. Elle a perdu 7 membres de sa famille.
Notre président Tayyip Erdogan a pris nos terres, nos champs, nos oliviers pour construire des immeubles. On a vécu une grande catastrophe, le tremblement de terre, mais la plus grande catastrophe aujourd'hui, c'est l'État. On paye des impôts et on ne sait pas où va cet argent. Cela fait 2 ans que nous vivons au bord de la route. On vient tout juste de réussir à bâtir une petite pièce pour toute la famille. Seule la maison du peuple nous a aidés.
Et la justice pénale aussi est au point mort. Aucun dossier n'a encore abouti. Ejvital Khan plaide dans 6 affaires, 350 personnes décédées. Les familles, explique-t-il, sont en plein désarroi.
Les gens se sont éparpillés. Certains sont partis, d'autres habitent dans des villes containers. Le tribunal est devenu leur seul lieu de socialisation. Et quand ils se revoient, les émotions reviennent, les traumatismes aussi, les souvenirs. En face, la partie adverse a des armées d'avocats pour les ingénieurs, les chefs de travaux, les entreprises de construction. Ils regardent les victimes dans les yeux et leur mentent sans vergogne.
Ejvital Khan dénonce une culture du déni, de l'irresponsabilité.
Dans le droit pénal turc, il y a une amnistie en moyenne tous les 10 ou 15 ans. Personne ne se considère responsable, ni les ingénieurs, ni les conducteurs de travaux, ni les mairies. Ils se défendent en disant « il y a eu des tremblements de terre avant, les autres ont été amnistiés, pourquoi serions-nous condamnés ?»
Soner et son ami Rami en savent quelque chose. Ils ont perdu 16 proches dans l'effondrement de leur immeuble d'Eria la nuit du 5 au 6 février. Soner se souvient.
Le 5 février, c'était mon anniversaire. C'était une belle soirée. C'était le dernier jour des vacances scolaires. On avait des invités, et puis au beau milieu de la nuit, un bruit étourdissant et des secousses inimaginables.
Il montre son immeuble dévasté. Les bâtiments voisins, eux, sont restés debout. Alors, après les funérailles, avec son ami Rami, ils ont porté plainte, raconte ce dernier.
Ils ont arrêté plusieurs personnes, les membres du bureau d'études, les architectes et finalement le promoteur un an plus tard. Il était en cavale. Il y a eu 4 audiences. À la 4e, ils ont tous été remis en liberté, même le promoteur. Leur défense n'était basée que sur des mensonges. Ils accusaient les habitants de l'immeuble de l'avoir fragilisé en faisant des travaux, ce qui est faux. On n'a pas touché une seule pierre. On a pu le prouver avec des vidéos, mais ils ont réussi à fausser le procès.
Soner reprend.
On savait qu'ils s'en sortiraient tous. Au sein du peuple, personne ne croit en la justice. Nous avons pris des avocats pour que justice soit rendue à nos voisins, à nos camarades qui sont morts, pour la paix de nos consciences. Mais comment tout cela va-t-il se terminer? Cette injustice ne concerne pas que les habitants de l'immeuble d'Eria. C'est une blessure pour tous les habitants d'Antioche.
Une prochaine audience est prévue dans quelques semaines. S'il y avait une justice, soupire-t-il, ces gens devraient aller en prison.
Marie-Pierre Véraud pour le reportage. Merci Marie-Pierre. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Nous sommes d'abord au Japon, Kevin, qui est tout blanc en ce moment.
Eh oui, de la neige en pagaille et ça va durer jusqu'à dimanche. Mardi, par exemple, il est tombé, rendez-vous compte, jusqu'à 1,20 m de neige en une matinée seulement. Alors forcément, les médias sont en boucle. On voit les reporters des chaînes de télé japonaises se filmer avec de la neige jusqu'à la taille. C'est le nord de l'archipel qui est concerné, l'île d'Hokkaido. Selon les services météo, ces chutes de neige battent tous les records. Résultat, évidemment, pas de train, pas d'avion, des routes et des autoroutes bloquées. Sur les télés japonaises encore, on voit aussi des images assez ridicules, il faut bien le dire, d'automobilistes qui tentent malgré tout de prendre leur voiture pour un résultat fort peu convaincant. Les autorités recommandent de sortir le moins possible. Il faut dire que c'est une vraie tempête hein, avec du blizzard et une forte houle sur les côtes. Dans la capitale régionale Sapporo, les habitants se réjouissent hein, tout de même puisque se déroule en ce moment le festival de la neige.
Ah bah c'est bien fait.
2 millions de visiteurs annuels, ça ne pouvait pas mieux tomber.
Voici au Burundi où des médecins ont été arrêtés.
Parce qu'ils ont démissionné. Et oui, 5 médecins qui ont quitté leur poste ces derniers mois ont été interpellés et sont incarcérés depuis fin décembre et entre fin décembre et fin janvier. Ces arrestations, on l'a appris hier. Ces généralistes sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Pourquoi ? Eh bien, s'ils ont démissionné, c'est parce qu'on leur a refusé des augmentations de salaire. 164 euros par mois actuellement. Ils réclamaient avec leur syndicat 660 euros pour faire face à la hausse du coût de la vie au Burundi. Et ces démissions en signe de protestation sont en fait réprimées par le pouvoir qui fait taire globalement toute critique dans ce petit pays d'Afrique, l'un des plus pauvres du monde. Une manière aussi de faire peur aux médecins qui sont de plus en plus nombreux à quitter le Burundi, justement à cause de leurs conditions de rémunération.
Nous sommes aux États-Unis avec une tentative de reconversion.
Oui, celle de Stéphane Gordy. Ce nom ne vous dit sans doute rien. Il est connu aussi sous le pseudonyme de Red Fou. C'était le chanteur du duo déjanté LMFAO. Souvenez-vous, on les entendait partout il y a presque 15 ans maintenant. Every day I'm shuffling. Party Rock Anthem, 2,5 milliards de vues pour le clip rien que sur YouTube. Eh bien, Red Fou est devenu tennisman engagé sur le circuit professionnel. Et oui, le tout à 49 ans, il faut être motivé. Mais on ne peut pas dire que le changement de métier se passe super bien. Hier, il jouait le premier tour d'un tournoi ITF, donc organisé par la Fédération Internationale de Tennis à Sharm el-Sheikh en Égypte. Il a bénéficié d'une invitation pour ça. Résultat, défaite 6-1, 6-0 en 43 minutes. Et la semaine dernière, au même endroit, dans un tournoi là aussi ITF, il a pris 6-0, 6-0. Pas sûr qu'on le voit à Roland-Garros au printemps, ou alors pour mettre l'ambiance.
C'est bien, il ne fatigue pas trop ses adversaires. Et moi, je trouve ça plutôt aimable de sa part.
C'est altruiste, en fait.
Oui, très altruiste, Kevin. Merci beaucoup. Tiens, en parlant de mettre l'ambiance, moi, ça me va très bien. Voici les Stranglers, Golden Brown sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Golden Brown sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h, presque 50, c'est Franck Madvon.
How dare you?
World's changed.
Fabienne Saintès. Le 18-20.
Franck, une proposition de Donald Trump d'une prise de contrôle de Gaza a éclipsé une autre déclaration du président américain favorable à un accord de paix avec l'Iran. Et ce soir, vous nous expliquez pourquoi ce nouvel accord semble possible.
Alors, à première vue, la perspective d'un tel compromis ne saute pas aux yeux. Les relations entre l'Iran et l'Occident n'ont cessé de se détériorer depuis qu'en 2018, Donald Trump a sorti les États-Unis de l'accord de Vienne visant à contrôler le programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions. L'Iran est revenu sur ses engagements. Le pays dispose aujourd'hui de stocks d'uranium enrichi à 60%, très supérieurs aux limites imposées par l'accord de 2015. Il ne faudrait que quelques jours pour atteindre le seuil de 90% nécessaire à la fabrication d'une bombe. Même si la mise au point d'une tête nucléaire prend plus de temps, la menace devient tangible. Et Téhéran peut se contenter de fabriquer une arme nucléaire peu sophistiquée pour raccourcir les délais. L'accord de Vienne expire en octobre prochain. On voit mal comment l'administration Trump pourrait réussir là où les démocrates ont échoué.
Mais c'est bien le président américain qui tend la main à l'Iran.
Trump a repris en effet avant-hier son leitmotiv du premier mandat vis-à-vis de l'Iran, pression maximale sur le pays. Il a signé un mémorandum demandant à son gouvernement de prendre de nouvelles sanctions contre Téhéran, mais il s'est montré étonnamment conciliant. Cette stratégie n'aura presque pas besoin d'être utilisée, espère-t-il. Trump affirme préférer un accord qui permettra à l'Iran de croître et de prospérer pacifiquement. Et il conteste l'information selon laquelle les États-Unis travaillent avec Israël à d'éventuelles frappes contre Téhéran. C'est grandement exagéré.
Voilà, mais l'Iran ne doit pas avoir l'arme nucléaire.
C'est la condition posée par Trump, bien sûr. Le président iranien Pezeshkian lui répond aujourd'hui « Nous ne cherchons pas à nous doté de l'arme nucléaire, une arme, on l'oublie parfois, interdite par les textes religieux en Iran. En réalité, il ne fait pas de doute que l'Iran élabore un programme nucléaire, mais le pas définitif vers la bombe n'est pas franchi et à Téhéran, de plus en plus d'officiels se disent ouverts à de nouvelles discussions avec Washington. Première explication, l'affaiblissement de l'Iran. Ses alliés, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, ont perdu des hommes et de l'influence. Le régime Assad en Syrie est tombé. L'Iran n'a plus la même capacité de dissuasion dans la région. Autre raison, la crise économique. La République islamique est toujours étranglée par les sanctions. Le président Pezeshkian, présenté comme un modéré, a clairement pour mission de desserrer cet étau. Enfin, côté américain, Trump rêve d'un accord qu'il pourrait brandir comme un trophée. Nous avons fait plier l'Iran.
Sauf qu'il reste beaucoup d'obstacles à surmonter.
Oui, les Iraniens ne misent pas tout sur d'éventuelles négociations. Ils continuent à montrer les muscles. Ce matin, les gardiens de la Révolution ont dévoilé le premier porte-drone du pays. Dimanche, c'était un nouveau missile balistique. En janvier, l'Iran a signé un partenariat avec la Russie qui comporte un volet militaire. En clair, Téhéran se prépare à tout et n'acceptera pas une soumission à Washington. Pour obtenir un compromis, l'administration Trump devra aussi accepter des concessions difficiles avec un congrès très remonté contre l'Iran et un allié israélien qui fera tout pour éviter un accord et pousser Washington à opter pour la manière forte.
Franck Madvon, merci beaucoup. La Tech la première, comme chaque jeudi, c'est Stéphane Jourda.
France Inter, le 18-20.
Stéphane, on a commencé à en parler avec notre invité tout à l'heure. Le sommet de l'IA a commencé. Nous serons lundi avec vous d'ailleurs en direct du Grand Palais. Aujourd'hui et demain, ce sont des journées consacrées à la science. Et vous avez rencontré une des figures mondiales de la recherche en matière d'intelligence artificielle. Sa parole est très rare dans la presse. Elle s'appelle Joëlle Barral. Elle est directrice scientifique à Google DeepMind.
Et oui, première demande d'interview envoyée à Google en juin dernier. Des relances en septembre, puis en janvier. Et le sommet de l'IA qui débloque cette petite avance. Rendez-vous au siège de Google à Paris, dans le Silicon 9e, cœur battant de la French Tech. Nous, ça fait 2 ans qu'on s'intéresse à l'IA. Joëlle Barral, ça fait 10 ans qu'elle travaille dessus, et donc forcément, pour elle, ChatGPT, c'est une toute petite partie de l'histoire.
Ces agents conversationnels, le grand public s'en est emparé très vite, mais ce n'est que la pointe, j'ai envie de dire, la pointe émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que l'IA générative aujourd'hui va permettre des changements beaucoup plus profonds. L'innovation technologique est absolument fulgurante, on est vraiment, encore une fois, au début d'une nouvelle ère.
Des changements fulgurants, une nouvelle ère, et quand on est à Google et qu'on échange sur l'IA, il se passe rarement plus de quelques minutes avant qu'on nous parle d'AlphaFold, et là, c'est arrivé à la 4e minute.
Un exemple qu'on aime bien donner pour illustrer ce changement en profondeur, c'est AlphaFold. AlphaFold, ça a résolu un des grands challenges qu'on avait en biologie, à savoir comment prédire la structure en trois dimensions des protéines, ce qui est une information très importante pour développer de nouveaux médicaments. Et jusqu'ici, pour chaque protéine, il fallait souvent plusieurs années pour arriver à prédire cette structure en trois dimensions.
Et dorénavant, c'est quasiment immédiat grâce à l'IA. Et c'est parce qu'ils ont mis au point AlphaFold chez Google que Demis Hassabis et John Jumper ont reçu le prix Nobel de chimie cette année. John Jumper et Joël Barral font d'ailleurs partie de la cinquantaine de chercheurs réunis aujourd'hui et demain par Emmanuel Macron pour le pré-sommet scientifique.
Alors, il faut dire qu'AlphaFold est une révolution.
Plus de 2 millions de scientifiques l'utilisent dans le monde, dont 60 000 en France. Et grâce à l'IA, il faut s'attendre à d'autres avancées de la même envergure dans d'autres domaines.
On pourrait parler de la découverte des matériaux, de la fusion nucléaire, de la prédiction météorologique. On voit vraiment des avancées très importantes grâce à l'IA dans de nombreux domaines scientifiques.
En plus de ces deux Nobel de chimie, Google a raflé le prix Nobel de physique décerné cette année à Geoffrey Hinton, qui a passé 10 ans à Google avant d'en claquer la porte en 2023 pour dénoncer les dangers de l'IA. Alors justement, est-ce qu'il va falloir s'habituer à avoir des Nobel pour les géants de la tech ?
Alors je crois que ce qui est très important, c'est qu'on est vraiment au début d'un point d'inflexion et donc on a vraiment vocation à travailler tous ensemble pour voir dans quelle mesure on va pouvoir mettre ces avancées technologiques au bénéfice de la société et vraiment décider ensemble de quels sont les problèmes auxquels on veut s'attaquer en priorité avec ces outils.
On est au début d'un point d'inflexion. En langage Google, ça veut dire oui, il faut s'y faire, ce n'est que le début.
Ce qui nous amène au sujet du moment.
Qu'attend-elle de ce sommet de l'IA ?
On est au début d'une nouvelle ère, on pourrait dire peut-être une ère de l'intelligence après la révolution industrielle que les siècles précédents ont connue. Et on a vraiment besoin, en tant que société, de définir un cadre, une réglementation cohérente, moins fragmentée, pour savoir comment utiliser au mieux cette technologie. C'est un sommet qui permet de réunir toutes les parties prenantes pour réfléchir ensemble à ce qu'on veut faire avec cette technologie.
Réfléchir à ce qu'on veut faire avec cette technologie, c'est une question qui résonne drôlement chez Google. La presse américaine relève jeudi que l'entreprise a discrètement modifié son rapport sur ses responsabilités en matière d'IA. Elle s'engageait à ne pas développer d'IA pour des usages militaires ou de surveillance, mais comme l'a repéré Bloomberg, la mention a disparu alors qu'elle était encore présente la semaine dernière.
Donc ça veut dire quel avenir nous réserve l'IA ?
Google Translate traduit 260 langues. Qt AI, laboratoire cofondé par Eric Schmidt, ancien de Google, vient de dévoiler aujourd'hui un modèle expérimental dédié à la traduction simultanée. Bientôt, des lunettes vont lire sur les lèvres de votre interlocuteur et vous traduire directement ce qu'il dit. Alors, on a demandé à Joël Barral si ça avait encore du sens d'apprendre une langue étrangère à nos enfants.
Je pense que ça n'empêche pas l'apprentissage des langues vivantes. Moi, j'avais fait du grec ancien quand j'étais jeune et je suis ravie d'avoir fait du grec ancien. Donc, je crois que le fait que la technologie demain va nous permettre de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui n'empêche pas un certain nombre d'apprentissages.
Il faudra faire du grec ancien, Fabienne, et puis il faudra faire des maths aussi.
Je crois que ce qui est beaucoup plus important pour les enfants aujourd'hui, c'est de faire des maths et de faire des sciences et de comprendre que demain, le monde dans lequel on vit va être de plus en plus façonné par ces technologies et avoir la capacité de comprendre qu'elles ont dans le ventre, comment elles sont faites, quelles sont les mathématiques permettent à ces algorithmes d'avoir la puissance qu'ils ont, c'est très important. Et que nos jeunes comprennent que grâce aux sciences, ils peuvent avoir un impact sur le monde très important.
Mais il faudra quand même garder un peu de temps pour s'ennuyer.
Vivre avec l'ennui, je crois que c'est très important, notamment pour mes enfants. Moi, j'aime beaucoup quand ils s'ennuient parce que je crois que c'est ça qui leur permet d'être créatifs. Donc, je souhaite à tout à chacun d'être déjà confronté à l'ennui.
Faire du grec, faire des maths, s'ennuyer. Et si on est une femme et qu'on veut travailler dans la tech, il faudra aussi être têtu.
En tout cas, il faut être têtu parce qu'on est souvent tenté par soi-même ou par d'autres d'aller faire autre chose. Et donc, il faut aimer les sciences et croire au fait qu'on y a toute sa place. Je crois que les biais sont aussi têtus et malheureusement, il y a beaucoup de biais inconscients ou conscients qui perdurent. Et ça, c'est vrai pour nos équipes comme ailleurs.
Les biais de genre sont têtus, notamment dans les robots conversationnels. Et à Google, il y a même une personne dont c'est le job à plein temps de limiter les effets de ces biais de genre dans l'IA maison. Gemini.
Stéphane Jourdain, merci beaucoup. On y sera, je le redis, au sommet de l'IA. Il y aura aussi un téléphone sonne comme ça. Vous pourrez dire tout le mal que vous pensez l'IA ou tout le bien que vous en pensez aussi. Vous aurez droit à chaque côté. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Juste après, le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Et dans le téléphone sonne, la défenseur des droits Claire Edouin avec un message en direction des entreprises.
Oui, c'est au sujet de la lutte contre les discriminations, le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. Claire Edouin, qui sera avec nous, publie une une longue liste de recommandations, et bien parce qu'elle constate des manquements. Fabrice, je travaille dans une grande entreprise de service public. Après une opération et un arrêt de travail de 4 mois, ma hiérarchie m'a informé que je ne serais plus manager parce que mon poste nécessitait une bonne santé, une condition physique adéquate. Beaucoup de témoignages de ce genre, mais on attend aussi des appels, et bien de patrons, pourquoi pas, qui peuvent se sentir légitimement dépourvus quand il faut régler des situations complexes, des conflits entre salariés. La défenseur des droits est là pour répondre à tout le monde.
Au 01 45 24 7 45 24 7 000.
Fabienne,
enfin bref, ah non mais c'est dingue, j'ai oublié le numéro. 01 45 24 7 000.
C'est tout neuf.
Je crois que je suis un mini AVC. Allez, il est 19h.